Chapitre 23. Lorsqu'il fit complètement nuit, je m'approchai de la gare. Le fait d'être seul me donnait une profonde impression de sécurité. Je pensai à ce qui se serait passé à l'instant même, si au lieu d'être seul, nous avions été 10, 15 ou 20. Si encore mes camarades avaient accepté l'autorité de l'un de nous, mais non. Chacun donnait son avis, critiquait ce que proposait le voisin, refusait une chose sans raison, parce qu'elle ne lui plaisait pas, ou au contraire, avait une idée, sans pouvoir dire pourquoi il avait cette idée plus qu'une autre. J'imaginais notre groupe s'approchant de cette gare. L'un aurait dit qu'il fallait s'arrêter, attendre, l'autre qu'il ne fallait pas prendre ce chemin, un troisième qu'après tout nous faisions une bêtise, un quatrième qu'il avait entendu du bruit, que nous devions filer immédiatement. Un cinquième qu'il en avait assez, qu'il fallait y aller carrément, un sixième qu'il avait faim, qu'il voulait avant tout casser la croûte, etc. La neige s'était arrêtée. Jamais je n'avais senti avec tant d'intensité la beauté du calme et du silence. J'avançais en me cachant derrière les wagons, puis dans l'étroit couloir formé par l'espace situé entre deux trains côte à côte, puis sur le remblai. La difficulté consistait à deviner à quel convoi la locomotive, que je voyais manœuvrer dans le lointain, allait s'atteler. La température s'était brusquement adoucie. De temps en temps, le bruit d'un jet de vapeur venait jusqu'à moi, puis celui de wagons s'entrechoquant. Des cris retentissaient, mais je n'avais plus peur. J'avais gardé ma capote de soldat. J'avais pris soin cependant d'en vider les poches, mon intention étant de m'en débarrasser sans hésiter dès qu'elle risquerait de me compromettre. La seule chose qui m'ennuyait, c'était mes souliers d'un modèle militaire français. Il est vrai qu'ils étaient tellement usés qu'il fallait les regarder de bien près pour s'en apercevoir. Comme je n'avais pas mangé depuis 3 jours, j'entendais par moments mon estomac faire des bruits inexplicables, comme si, au contraire, j'avais trop mangé. À part certaines sensations désagréables, comme des rougeurs subites, un goût amer dans la bouche, l'impression seulement, que j'allais avoir des troubles visuels, je ne me sentais pas faible physiquement. Si j'avais eu à soulever un poids, j'aurais pu le faire. Peut-être que s'il m'avait fallu courir, je me serais essoufflé plus vite. Mais dans l'ensemble, je ne pouvais pas me considérer comme handicapé par le jeûne, c'était l'essentiel. Tout à coup, j'entendis marcher. Il y avait longtemps que je ne pensais plus à mes camarades. Ce bruit de pas me fit immédiatement songer à eux. Comme il était heureux que je fusse seul. C'était un employé de chemin de fer. Je n'eus qu'à me glisser, sans me presser, sous un wagon, et attendre qu'il fût passé. Un instant après, je sortais de ma cachette, comme si rien n'était arrivé. Je songeais à la frayeur que j'eusse ressentie si nous avions été tous là. Mes camarades, j'en étais certain, auraient été incapables de garder le silence. Combien de fois déjà avais-je dû, dans des situations analogues, les faire taire, ces insouciants qui, s'ils avaient été seuls, comme je l'étais à présent, eussent été peut-être 10 fois plus prudents que moi. À la fin, je parvins à découvrir le train de marchandises qui devait partir. Je me hissai sur la plateforme d'un wagon, je me glissai sous la bâche. Je m'aperçus alors qu'on aurait très bien pu tenir à 7 ou 8 sous cette bâche. Cette constatation me causa une sorte de malaise. Cela me faisait de la peine de penser que mes camarades auraient été si contents d'être là, que j'étais moi, et qu'il restait tant de place pour eux, et que cette place était perdue, ne servait à personne. Le train s'ébranla enfin. De temps en temps, je soulevais la bâche pour voir où j'étais. En me tournant, je sentis quelque chose de dur. Je tâtai ma poche. C'était un croûton de pain. Cette découverte insignifiante me causa une joie immense. Je cassai ce croûton, et avant de le mâcher, je le laissai mollir dans ma bouche en salivant le plus que je pouvais. Être au chaud, caché, seul, et manger, et sentir sous moi, sous les planches, le sol filer, comme dans un bateau on sent la mer, était vraiment à ce moment ce qui pouvait me donner le plus de bonheur. À l'aube, je profitai d'un ralentissement dans une côte pour sauter du train. Je trouvais plus prudent de ne voyager que la nuit. Après avoir suivi pendant 1 kilomètre environ le premier chemin que je rencontrais, je m'assis sur une pierre afin de consulter ma carte. Il était 6 heures du matin. À la perspective de marcher toute la journée à travers la campagne, contre le vent, je fus pris d'une grande lassitude. J'aurais beaucoup donné à ce moment pour pouvoir, malgré ma faim, me baigner d'abord, pour manger ensuite, fumer une cigarette, me déshabiller et dormir dans un lit. Quand on commence à songer à ses désirs, on n'a aucune raison de s'arrêter. Assis sur ma pierre, devant cette pauvre carte qui était toujours la même et que je regardais tout le temps, je pensais encore à la joie de trouver en me réveillant du beau linge, un bon costume, de bons souliers, un bon pardessus et des pièces d'identité me mettant en règle avec tout le monde. Je m'étais remis en marche. Je venais de parcourir 4 kilomètres, lorsqu'en apercevant le clocher d'une église, un clocher guère différent d'une toiture ordinaire, je me dis qu'il ne fallait tout de même pas cesser de prendre des précautions, sous prétexte que j'avais maintenant une liberté plus grande de mouvement. Je fis un détour pour éviter le village. Je ne venais à peine de parcourir 100 mètres lorsqu'un nouveau clocher, élancé celui-là, se dressa devant moi. Je consultai ma carte. Je compris que tout à l'heure, en la regardant, je n'avais pas fait assez attention et que je m'étais trompé. Au lieu de l'endroit à l'écart que j'avais supposé, je me trouvais sur le chemin reliant 2 villages à peine distants de 800 mètres. Voilà où m'avait mené un instant de relâchement. Je voulus tourner à droite, mais une rivière me barra la route. La sensation de revenir en arrière m'était trop désagréable pour que j'envisageasse de retourner sur mes pas. Je pensais couper à travers champs. En prenant ma gauche, mais de ci de là, j'apercevais déjà des silhouettes humaines pour qui je ne devais être moi aussi qu'une silhouette, mais qui suffisaient à m'effrayer. Sans que rien, au fond, eût dû m'inquiéter véritablement, je fus pris tout à coup de panique, comme si je venais de découvrir que j'étais tombé dans un piège. Ma situation, qui un instant auparavant n'avait été ni bonne ni mauvaise, me semblait brusquement désespérée. J'allais mourir de faim, de froid. Jamais je ne sortirais de cette région peuplée où je m'étais imprudemment aventuré. Je n'aurais jamais la force d'atteindre la petite gare de Bischofheim où je comptais, le soir, reprendre un train. Je posai mes affaires sur un tas de pierres parfaitement symétriques qui se trouvaient là. Puis je me mis à sauter sur place pour me réchauffer et surtout pour m'empêcher de penser. Quand je m'arrêtais, je me sentis mieux. Au fond, je n'avais aucune raison de m'affoler. Je m'étais trompé. Mon erreur me retardait, mais après tout, il n'était pas tellement indispensable que j'exécutasse chaque jour la tâche que je m'assignais d'avance, sans connaître d'ailleurs les difficultés que je rencontrerais. Il était beaucoup plus important que je conservasse tout le temps, et malgré les événements les plus inattendus, mon sang-froid et ma confiance en moi-même. J'ai dit plus haut que je ne craignais dans la faim que ce qui m'affaiblissait réellement, et que je ne tenais aucun compte des idées extravagantes qu'elle fait naître. Le lendemain, pour la première fois, j'eus conscience que ma force physique diminuait. La tête me tournait, mes jambes étaient molles. Il m'apparut nettement que si je continuais à ne pas m'alimenter, je ne pourrais continuer ma route. Il fallait que je trouvasse quelque chose à manger. C'était une nécessité absolue, et non plus comme avant, un simple besoin à satisfaire. Nous avions cru aussi, mes camarades et moi, que 24 heures de jeûne nous ôterait toutes nos forces. Aujourd'hui, ce n'était plus la même chose. Je m'approchais d'un village. Je m'étonnais que j'eusse si longtemps hésité à le faire. À proximité d'une maison entourée d'un jardin, je me cachais derrière un arbre, attendant de voir sortir quelqu'un. Une femme parut, une Allemande, qu'en temps normal j'eusse trouvée grosse et laide, mais qui, ce jour-là, me semblait pleine de toutes les qualités d'une maîtresse de maison, d'une mère de famille, d'une bonne épouse, qui allait me donner un paquet en cachette et qui allait me dire ensuite « Partez vite maintenant et promettez-moi de ne jamais dire à personne ce que j'ai fait pour vous. » Mais peu après, j'aperçus un homme à la fenêtre. Je m'arrêtai plus loin, à proximité d'une autre maison. Une femme m'accrochait du linge. Je l'appelais. Elle leva la tête. Tout en me cachant, non pas d'elle, mais des autres gens qui eussent pu me voir, je m'approchai. Je lui dis que j'étais un évadé français. Je la suppliai d'avoir pitié de moi. Je n'avais pas mangé depuis 5 jours. Elle n'avait rien à craindre. Jamais personne ne saurait ce qu'elle ferait pour moi. Elle m'examina. Elle avait un peu peur de moi, mais j'étais quand même à ses yeux, un homme comme les autres, quoique français. Je lui dis que je ne voulais pas entrer chez elle, que j'allais me dissimuler derrière la haie, que j'attendrais là aussi longtemps qu'il le faudrait, qu'elle m'apportât un morceau de pain, et qu'ensuite je disparaîtrais. Je n'oublierai jamais ce qu'elle aurait fait pour moi, et un jour, lorsque la paix serait revenue, je reviendrai lui dire toute ma reconnaissance. Elle hésitait toujours, disant qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne devait pas, que si cela se savait, elle serait punie, que son mari ne lui pardonnerait pas. Je ne pus rien ajouter pour la décider que la supplier encore. Nous étions tous des êtres humains, j'allais mourir de faim. Finalement, elle rentra chez elle, et de l'intérieur, me fit signe de la suivre. Elle ferma la porte, me tendit une chaise près du feu. C'était la première fois que je voyais un feu dans une cheminée depuis mon évasion. J'entendais cette femme aller venir. Ce bruit de pas dans cette cuisine me semblait le bruit familier de quelqu'un qui m'était très proche, de quelqu'un à qui j'étais attaché par un sentiment et non celui que faisait une étrangère. Elle m'apporta un bol de lait, des pommes de terre, un morceau de lard, et je l'entendis encore, pendant que je mangeais, aller et venir. Elle me préparait un paquet à emporter. Il y avait si peu de temps que j'avais quitté mes camarades qu'une idée bizarre me traversa l'esprit. Si nous avions été 10 ou 15, eût-elle pu préparer pour chacun de nous un paquet semblable ? Elle me dit « Il faut vous en aller ». Je me levai d'un bond pour qu'elle ne pût supposer, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, que je ne voulais pas partir. Elle me tendit le paquet et je sortis aussitôt. Quelques jours plus tard, comme j'avais toujours faim, je songeais à recommencer ailleurs le même manège. Mais au fond de mon cœur, j'éprouvais comme un dégoût d'agir de la même façon. J'avais le sentiment de commettre une sorte d'indélicatesse, comme si la première femme qui m'avait accueilli, en apprenant que je faisais avec d'autres ce que j'avais fait avec elle, en eût été froissée. Mais la nécessité est la pire ennemie des beaux sentiments. Je m'arrêtai devant une autre maison, j'appelais une autre femme. Tout se passa comme la première fois, mais j'éprouvais un sentiment de gêne qui m'empêchait de ressentir le même réconfort. Elle voulut me donner aussi un paquet, je le refusais. Ce paquet était beaucoup plus gros que celui de ma première bienfaitrice, et cela me choqua comme si c'était un reproche qu'on faisait à celle-ci. Finalement, je l'acceptai quand même, mais dès que je fus seul, je me promis de ne plus jamais rien demander à une femme, de m'adresser aux hommes, franchement, face à face, en acceptant tous les risques que cela impliquait.